Quand on entend le mot addiction, on pense souvent à l'alcool, les drogues ou encore la cigarette, mais les addictions peuvent toucher toutes sortes de choses, peut-être même des éléments que l'on utilise au quotidien.
Oui, par exemple, la dépendance à un aliment ou à une personne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à toutes les sortes d'addictions.
Et pour les décrypter, ces addictions, nous recevons aujourd'hui Léonard Vuilloux, psychologue. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle est la définition de ce mot addiction ?
Alors pour moi, la meilleure définition, c'est l'image de la prison. C'est-à-dire, c'est un comportement qui se répète et se répète encore au point que la personne ne parvient plus à l'arrêter, malgré des tentatives, et se retrouve prisonnière de ce comportement qui peut être lié à l'usage d'une substance ou uniquement un comportement sans substance.
Donc ça veut dire que l'addiction, elle peut être différente selon les personnes. Si on se sent emprisonné, on est addict. Si on ne se sent pas emprisonné, on ne l'est pas, c'est ça ?
Alors, la difficulté par rapport à ce sentiment d'emprisonnement, c'est qu'il va être peu reconnu par la personne addicte elle-même. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on va dire, une difficulté à se reconnaître en situation où l'on a perdu le contrôle. Donc, il y a ce que la personne va savoir d'elle-même et sa difficulté à le reconnaître. Mais ce sentiment d'emprisonnement et la souffrance caractéristique qui va avec, et pour l'entourage de la personne, va effectivement mettre sur la piste de la présence de l'addiction.
Alors, les addictions auxquelles on pense le plus souvent, c'est l'alcool, la drogue et la cigarette. Ce sont les plus dangereuses ou est-ce qu'il y en a d'autres qui, mine de rien, peuvent faire encore plus de dégâts ?
Alors, ces addictions-là, effectivement, font beaucoup de dégâts car elles se présentent autant sur le plan physique que psychique. Le corps n'est pas épargné et l'esprit, on va dire, non plus. Dans des addictions comportementales, lorsque c'est le travail, finalement, qui dérape et prend toute la place, ou le sport, ou la sexualité, ou d'autres éléments, le corps est moins directement mis en danger qu'avec une substance qui est ingérée.
Alors, justement, quels sont les symptômes ? Comment on se rend compte qu'on est dépendant de quelque chose ?
Alors, il y a plusieurs symptômes. Le premier, c'est effectivement cette perte de contrôle sur son comportement. Ça veut dire que la personne dépendante, la personne addicte, va essayer de limiter ou va essayer de stopper ce comportement et réaliser qu'elle n'y arrive plus, qu'elle est finalement victime de ce comportement qu'elle a répété. Il y a également la notion de tolérance, c'est-à-dire que la personne va être obligée d'accroître son comportement, de le rendre plus fréquent, ou la substance consommée, et puis ça aussi contre son gré. Mais pour avoir un effet identique, il faudra davantage de substances. Et puis toute la vie de la personne va se réorganiser autour de ce comportement, donc il va y avoir abandon de relations, d'activités significatives, et la personne se retrouve de plus en plus liée à ce comportement et à lui seul.
Donc vous le disiez, les personnes addictes ne se rendent pas forcément compte de à quel point elles sont emprisonnées par leur addiction. C'est le rôle de l'entourage qui là est très très important pour qu'il y ait une prise de conscience qui s'effectue.
Alors l'entourage est déterminant, effectivement, la manière dont il va se positionner, dont il va renvoyer des feedbacks à la personne dépendante, ça va permettre à cette personne à un moment d'accepter, de chercher une solution, d'aller trouver de l'aide, sans quoi elle risque de rester dans cette situation d'emprisonnement jusqu'à des conséquences qui peuvent être dramatiques.
On parle d'addiction dangereuse tout à l'heure, alcool, drogue, cigarette. Mais il y a un article qui est sorti récemment et qui démontre qu'on peut être dépendant au fromage, ce qui est probablement mon cas. Alors, le fromage, on dit qu'il contient une protéine qui peut être comparable aux opiacés. Est-ce qu'on a des aliments, des choses que l'on consomme tous les jours et auxquelles on ne penserait pas pouvoir être dépendant et qui finalement nous rend complètement accro ?
Alors j'ai parcouru effectivement cette étude qui m'a interpellé. Je crois qu'il est vraiment essentiel au premier abord d'être prudent par rapport à cette notion d'addiction. Parce que finalement, c'est un terme qui est très présent dans la presse, dans le langage courant. Et puis, il y a lieu de distinguer quand on parle d'addiction en termes de maladie, comme on en parle ce matin, de quelque chose qui est grave, voire gravissime, où la détresse et la souffrance de la personne et de son entourage est véritablement présente, et l'addiction dont on parle, je dirais, communément, où c'est presque quelque chose qui peut être valorisé parfois, d'être addict à une chose ou une autre, c'est comme un synonyme d'activité dans laquelle on est impliqué avec une passion, et je crois qu'il y a un glissement en termes de définition entre la passion et l'addiction, où le grand public peut être finalement un peu plongé dans l'obscurité, parce qu'on ne sait plus vraiment si on parle de maladie ou de passion. Avec le fromage, voilà, moi je lisais aussi les critiques d'un addictologue connu à Paris, qui disait que cette protéine, donc la caséine qui se retrouve dans le fromage, n'a pas été reconnu comme opérant une addiction au même type que la cocaïne, que l'héroïne ou que d'autres substances psychotropes.
Mais ça veut dire que tous les aliments, tous les produits peuvent avoir justement quelque chose, un produit à l'intérieur qui peut nous rendre addicts.
Alors je pense que c'est excessif d'aller dans ce sens-là. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau cérébral, c'est le même circuit de la récompense qui est mobilisé lorsqu'il y a un aliment ou lorsqu'il y a une drogue. Simplement, il est mobilisé et sollicité de manière très différente. Lorsque c'est un aliment, ce circuit de la récompense est touché et mis en mouvement, si on va dire, de façon constructive. Ce circuit, il existe pour notre survie, donc un aliment va l'activer, libérer la dopamine comme neurotransmetteur au niveau cérébral, et ensuite dans tout le corps, et on a quelque chose de valable, quelque chose de constructif. Alors qu'avec une drogue, ce circuit de la récompense va être surstimulé, la libération de dopamine va être beaucoup plus importante, sur une durée également prolongée, et c'est dans ce cas-là qu'on va aller dans le sens du développement d'une addiction.
Donc, aucun avenir pour faire fortune en faisant du trafic de têtes de moine, par exemple.
Alors, je pense que là, non.
les addictions alimentaires, on parle également parfois d'addiction à la junk food, au fast-food, avec des jeunes qui vont manger ce genre de nourriture, pas une fois de temps en temps, mais très très régulièrement, avec là aussi un comportement qui peut relever de l'addiction.
Alors, comme vous le dites, c'est un comportement qui laisse penser à quelque chose qui va dans la direction d'une addiction. Mais pour moi, on est plus souvent dans une habitude ou une habitude qui est si souvent répétée qu'elle prend presque toute la place. Et on est dans une zone frontière. On est dans cette frontière où l'habitude a en quelque sorte dégénéré, c'est-à-dire qu'elle s'est imposée à une autre manière de s'alimenter. Mais on n'est pas forcément dans une addiction, c'est-à-dire que la personne va quand même garder un certain contrôle sur sa manière de s'alimenter et pourrait, en changeant un petit peu le contexte, aller vers autre chose comme forme d'alimentation.
Jamais 203. Format A3.
Format 3 qui reçoit ce matin Léonard Vuilloux, psychologue, avec qui on parle des addictions.
Oui, des dépendances qui peuvent prendre plusieurs formes, comme par exemple la dépendance affective.
Alors oui, effectivement, la dépendance affective qui, en termes de relation, eh bien, a quelque chose de catastrophique, qui, au premier plan, peut donner l'idée d'un lien qui est très proche, d'une relation de confiance, mais qui dénote de quelque chose de beaucoup plus sournois, où on est dans un mode vraiment destructif de relation, même si ce n'est pas ce qui apparaît.
Ça veut dire que c'est la personne avec qui on a cette relation qui est toxique pour nous, ou c'est la façon dont la relation se met en place et se développe qui devient mauvaise?
Alors pour moi, personne n'est toxique en soi. Il y a lieu là vraiment de rechercher un peu dans l'histoire de la personne, dans son histoire familiale et surtout dans sa construction, les liens qu'elle a tissés avec son entourage depuis sa petite enfance. Évidemment, ce n'est pas toujours facile de le faire, mais ça donne des indicateurs très très clairs sur la manière dont l'enfant a pu se développer dans une relation de confiance avec ses proches directs ou à l'inverse dans une relation de méfiance, voire un climat d'insécurité. Et cela va participer à ce risque de développer ensuite des relations où une dépendance affective peut se mettre en place et être vraiment nocive pour l'un comme pour l'autre.
Est-ce qu'on peut se rendre compte par nous-mêmes que l'on développe une dépendance, que ce soit affective ou autre, ou est-ce qu'on a, enfin, c'est les autres en général qui vont nous le faire remarquer?
Alors les autres sont notre principal miroir de soi-même. C'est difficile d'avoir ce regard sur soi. Il y a vraiment une dimension d'aveuglement sur son propre fonctionnement qui fait foi, qui est là au premier plan. Et l'autre va pouvoir donner des éléments, des indicateurs qui nous feront penser qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus susceptibles de développer des dépendances, notamment à d'autres personnes?
Alors, il y a des personnes plus susceptibles de développer des dépendances au sens large, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs génétiques, il y a un terrain favorable, prédéterminant, qui peut favoriser l'installation d'une dépendance. Et là aussi, si on regarde du côté de la famille de la personne, son arbre généalogique, son génogramme, on peut repérer que lorsque la dépendance s'est déjà installée, qu'elle soit comportementale ou liée à une substance, il y aura un risque plus grand pour cette personne ensuite de développer également une relation d'ordre addictive.
Alors si on sait que parmi nos ancêtres, on en avait certains qui étaient très dépendants, je sais pas, on a un grand-père qui picolait de façon un petit peu trop souvent et beaucoup. finalement, est-ce qu'on peut faire de la prévention, disant ben voilà, on a cet arbre généalogique, ce background qui a une couleur de dépendance. Comment est-ce qu'on peut faire de la prévention?
Alors la prévention, elle existe dans le fait de oser dire, oser reconnaître ce qu'il y a eu lieu dans la famille. Maintenant, là aussi, la famille fonctionne dans un équilibre interne très fort. Pour qu'elle puisse subsister, elle doit se voir comme fondamentalement bonne et l'extérieur comme plutôt mauvais. Donc lorsqu'il y a une dépendance qui a été présente, encore une fois, quelle qu'elle soit, la tendance va être quand même pour la famille de dire il y avait des raisons, il y avait des bons motifs pour que cette problématique s'installe et la personne est plutôt victime que responsable de son addiction.
On va justifier.
Voilà, on va justifier, ça je crois que c'est à la base de l'être humain, de son fonctionnement, et il y a là déjà une première barrière à surmonter. Si on est dans ce processus de justification, c'est déjà un indicateur que quelque chose n'est pas tout à fait honnête. Donc il y a lieu d'aller un peu plus loin et de se dire, ok, on peut reconnaître des conditions défavorables, mais ensuite d'interroger la personne comment elle y a fait face. Et si elle a utilisé voilà, de manière abusive, excessive, un produit ou un comportement et que ça a ensuite dégénéré, c'est important de pouvoir y mettre un mot, de pouvoir nommer cette maladie psychique, pour ensuite commencer à la dépasser.
Alors comment on va se soigner ?
Alors, c'est important de distinguer qu'il y a beaucoup de gens qui vont se soigner sans forcément avoir recours à l'aide de professionnels, qui, à l'aide d'amis, de relations, je dirais, qui sont basées sur dans de bonnes bases de confiance, il y a possibilité de prendre conscience de son propre fonctionnement et de choisir de s'en détourner et de trouver une autre manière de faire face à ce que la vie réserve. Mais pour d'autres, il y aura le besoin de recourir à l'aide d'un professionnel. Et je dois dire que dans la région, on est bien servi tant au niveau résidentiel qu'ambulatoire. Il y a plusieurs antennes qui permettent de trouver de l'aide et du soutien.
Alors, vous allez animer une conférence sur les addictions demain soir à Tramelan. Qu'est-ce que vous présentez dans vos conférences ?
Alors, pour moi, j'aimerais présenter un panorama très général. C'est important de savoir que cette conférence, elle se veut tout public. Chacun et chacune est bienvenu à venir découvrir un peu plus ce monde des addictions. Pour moi, c'est interpeller les gens dans ce que l'addiction représente pour eux-mêmes et pour leur entourage, c'est-à-dire d'être non pas questionné uniquement sur un plan intellectuel, de vouloir connaître, comprendre un peu mieux, mais en termes émotionnels, de dire lorsque j'entends parler d'addiction, à qui est-ce que ça me relie ? Que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'entourage direct, amical ou social, de se laisser interpeller sur un plan personnel et non pas uniquement de connaissance.
Donc une conférence qui n'est pas forcément destinée aux personnes dépendantes, mais vous le disiez, à tout public.
Absolument.
Les proches, ils ont un rôle, on en parlait en début d'émission, les proches, ils ont un rôle absolument essentiel. Donc c'est peut-être les proches qu'on va inviter à venir à cette conférence demain.
Alors les proches ou les personnes directement concernées, pour moi vraiment chacune et chacun est le bienvenu pour cette rencontre donc organisée par les différentes paroisses protestantes de la région, avec Françoise Surdet, la pasteur avec qui on a vraiment mis ça en place. Et ça se veut un lieu à la fois, un moment tout public et en même temps relativement pointu. C'est-à-dire que j'essaie de donner les pistes les plus concrètes pour que chacune et chacun reparte avec quelque chose de plus dans ce vaste thème qui est difficile d'accès après tout.
Ces conférences que vous mettez en place, est-ce que ça attire du monde ou est-ce qu'il y a quand même toujours des réticences à venir en fait assumer finalement qu'on est dépendant à quelque chose ?
Ah, y en a qui deviennent addicts à vos conférences, non ?
Alors heureusement, je ne donne pas suffisamment pour que l'addiction se développe aux conférences. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un facteur de mise en avant, il y a une prise de risque. Lorsqu'on va à une conférence dans un village, on ne va pas se retrouver au milieu de 200 personnes, donc il y a quand même une visibilité où on se dit, tiens, cette personne vient ici, est-ce qu'elle a un problème, est-ce que c'est son entourage ? Et ce n'est pas évident de faire ce premier pas. Maintenant, c'est en même temps ce premier pas qui va être déterminant pour une entrée en matière, pour dépasser une première barrière, comme on disait, étant donné que la prise de conscience que quelque chose ne va plus, que quelque chose est problématique, nécessite une prise de risque. Et venir à une conférence, c'est déjà un premier pas dans ce sens-là.